Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strauch-Bonnard. Dans cette première émission, nous racontons ce qui nous amène à vous proposer ce podcast. Nous voulons offrir un nouvel espace de conversation pour aborder des sujets sérieux sans esprit de sérieux. Nous discutons ensuite avec le journaliste Frédéric Taddeï de l'état du débat dans les médias d'aujourd'hui. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Aujourd'hui, pour notre première émission, nous avons choisi de commencer par le commencement. Pourquoi ce podcast ? Peggy, je te laisse la parole.
Effectivement, c'est toujours bien de commencer par le commencement pour un premier numéro. Donc, pourquoi ce podcast ? Je vais commencer par raconter un peu ma vie. En fait, ces dernières années, j'ai eu deux événements fondateurs. Donc, le premier, c'était l'élection de Donald Trump que j'ai passé. En gros, j'ai passé, sans exagérer, j'ai passé 3 jours à pleurer dans mon lit et en chemise de nuit et en pyjama. Bref, voilà, c'est vraiment un choc. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que je vivais dans une bulle. Je vivais dans une bulle comme tous les gens pour lesquels l'élection de Donald Trump a été un choc. La semaine d'avant, j'étais en rédaction, en conférence de rédaction à Slate et on se marrait, on était là genre ah, mais oui, la semaine prochaine, on se retrouve la semaine prochaine hein, quand Trump sera président. Ah, super blague, personne n'y croyait. Donc je me suis rendu compte que je vivais dans une bulle et que j'avais tous les défauts en fait, tous les défauts des gauchistes qui pensaient que les gens de droite étaient des méchants, la diabolisation qu'on ne connaît que trop. Et la deuxième, donc ça a été en janvier 2018, c'était la fameuse tribune de Neuve que j'ai co-rédigée. Et là, ça a été comment dire, ça a été l'inverse de l'élection de Trump dans le sens où j'ai été Trump pour les gens. et les gens, les réactions qu'a fait cette tribune, il y avait pas de débat possible, il y avait pas de discussion possible, il y avait pas d'échange. C'était même pas qu'on était ignoré,
en janvier
2018. Donc le vrai titre qui est passé dans le monde papier, c'était « Des femmes libèrent une autre parole » et ça a été titré dans le monde web et c'est ça qui a fait l'énorme buzz qui a été international et tout ça. C'était « Nous défendons la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle ». Donc tout le monde s'est jeté sur la liberté d'importuner en disant que c'était une liberté de harceler, une liberté de violer, enfin c'était… Moi, j'ai eu ma sœur qui m'a appelée le lendemain pour me dire « Ah bon, tu défends le viol ?» J'étais là « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, elle me racontait qu'à 8h du matin ou à 9h, enfin bref, à la matinale de France Inter, il y avait Laurence Rossignol qui avait raconté ça à Léa Salamé en disant « Oui, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a des tribunes dans le monde qui paraissent et qui défendent le viol. » J'étais là « Non, ok. » Donc voilà, ce sont ces deux événements fondateurs qui m'ont fait dire que en fait il était temps de recouvrer sinon la joie en fait en tout cas l'envie de la conversation et pour dire les choses un peu sérieusement en fait pour moi enfin c'est je suis pas la seule hein, dans cette conversation en fait il y a la nécessité de défendre le projet civilisationnel qui nous aura en fait permis de nous extraire de la pensée de village et de survivre un peu mieux en tant qu'espèce et surtout en tant qu'individu parce que tout ce projet qui est en gros le projet des Lumières mais qui date d'avant les Lumières, c'est la réforme. On a 5 siècles de progrès en matière de concorde civile qui à mon sens en ce moment sont excessivement menacés. Et c'est quelque chose en fait que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier, c'est que les Lumières en fait sont nées des massacres des guerres de religion européennes et le libéralisme est issu d'une volonté de régler les conflits particuliers par de l'universel. C'est la raison naturellement égale en tout homme, comme disait Diderot. Et ce podcast, voilà, j'ai beaucoup d'ambition pour ce podcast, c'est sortir de la balkanisation informationnelle dans laquelle on est, dans éclater les bulles, se faire parler des tribus, des clans qui ne se parlent plus. Pour terminer cette première présentation, j'avais beaucoup aimé, en fait, en 2018, un peu après la tribune, justement, en février, il y avait une interview d'Ariane Mouchkine, qui est une grande metteuse en scène française. Elle était dans Le Monde et elle disait, donc là, je vais la lire, « J'aimerais, j'avoue, que nous arrivions à avoir des assemblées où la confiance serait telle qu'on pourrait converser, où l'on s'écouterait vraiment, où on ne se jugerait pas avant même le complément d'objet direct, où l'on ne serait pas en train de préparer la réponse avant que l'autre parle, où l'on admettrait qu'il faut parfois un silence après pour réfléchir à ce que l'autre vient de dire. Converser, cela voulait dire vivre ensemble. Dans les débats, c'est le contraire. Les gens sont plus divisés à la fin qu'ils n'étaient au début. On a perdu l'art de se parler aujourd'hui. On ne se persuade plus, on s'ostracise immédiatement. Et ça, c'est dangereux dans une société et triste. » Voilà, c'est mon projet pour ce podcast, de retrouver la joie et l'envie de la conversation.
Eh bien, c'est magnifiquement dit, Peggy. Je souscris évidemment à tout ce que tu viens de décrire, d'autant que tu cites Ariane Mouchkine, que j'adore. Je dirais aussi que nous, peut-être, nous deux, on illustre aussi cette rencontre parce que nous venons d'univers intellectuels et idéologiques différents. Tu viens de la gauche, moi, je viens plutôt de la droite. Et pourtant, on se rencontre sur beaucoup de sujets. Et moi aussi, depuis que je te connais, j'ai changé d'avis sur un certain nombre de choses où j'ai progressé. Alors, pas forcément à cause de toi directement, mais aussi parce que tu m'as fait découvrir un certain nombre de choses. Et même la discussion, je trouve, aide énormément à préciser sa pensée. Et finalement, quand on réfléchit bien, on se rend compte que oui, on se classe chacun largement droite ou gauche, mais qu'au fond, c'est beaucoup plus compliqué dans les détails et qu'on peut penser des choses de gauche sur certains sujets et des choses de droite sur d'autres sujets. Et ensuite, je voulais peut-être un petit peu développer ce que tu disais sur le libéralisme. En fait, pour moi, il y a deux phases dans le libéralisme. Il y a la phase évidemment tolérante, celle de la conversation, celle du débat que tu décrivais, mais il y a aussi la liberté de pouvoir offenser autrui. Et ça, c'est très important. Alors, ça semble peut-être un peu choquant de dire ça, mais je pense que sans liberté d'offenser, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce qu'en fait, quand on s'exprime, il y a toujours la potentialité que quelqu'un, quelque part, soit vexé. Et ça, il faut l'assumer. Alors, je ne dis pas qu'il faut blesser volontairement les gens ou les groupes, et surtout pas les personnes en tant que telles. Vouloir les attaquer, ça n'est pas du tout ce que je dis. Mais bien sûr qu'il y a des opinions qui blesse. Par exemple, tu citais la tribune que tu as écrite au moment de MeToo, et qui a été titrée de deux façons, à l'écrit et sur le web. Mais d'une certaine façon, c'est un petit peu ça que vous disiez. C'est-à-dire que vous parliez du fait qu'il y a certains hommes qui font des avances qui sont mal reçues, mais ils peuvent avoir la liberté de faire certaines avances, évidemment, dans un cadre courtois, parce que sans cette liberté-là, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de séduction. Donc, je fais un parallèle aussi entre notre difficulté qu'on a à accepter des paroles un peu offensantes et une espèce de puritanisme sexuel qu'on a pu voir ressurgir au moment de MeToo. Et je trouve ça très frappant. Donc, juste pour en revenir à la question de l'offense, je pense qu'il faut réapprendre ça et qu'une société libérale qui fonctionne bien, c'est une société qui trouve un bon équilibre, en fait, entre l'acceptation de l'offense et le fait que, bien sûr, parfois, ma liberté d'offenser va trop loin et elle devient une forme d'oppression de l'autre. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de perdre cet équilibre.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. Pour le coup, ce passage n'est pas très contrariant. Je voudrais juste préciser que ça a été très amusant dans la lecture de la tribune, je l'appelais la tribune 9, parce que c'est comme ça qu'elle reste un peu dans l'histoire. C'est qu'en fait, jamais dans le texte, on ne dit que la fameuse liberté d'importuner est réservée aux hommes. C'est ça aussi qui a été un malentendu, c'est une ambiguïté pour le coup qu'on avait laissé ouverte de manière totalement consciente et volontaire, parce que voilà, c'est une tribune que j'ai écrite avec des écrivains, Catherine Millet, Sarah Chiche, Abnou Chalmani, c'est vraiment Catherine Rob-Grayet, ce sont des, voilà, c'est moi j'écris aussi, mais je fais pas de la fiction, bref, mais comment dire, elles sont vraiment dans la littérature en fait, et ça faisait partie justement de l'espace de liberté de l'interprétation qu'on voulait laisser ouvert, et ça a été très amusant que voilà, que tout le monde considère que ça ne concerne que les hommes, bref, oui, donc pour cette liberté d'enfoncer, effectivement, je suis à 100% d'accord. Moi j'étais très amie et un peu élève, comment dire, il a pas du tout été mon prof, hein, mais c'est Ruven Augien, qui est mort il y a quelques années, qui avait justement écrit un livre qui s'appelle « De la liberté de français », je crois bien. Bref, oui, voilà, c'est cette offense, il n'y a pas de pensée sans gêne, c'est aussi pour ça qu'on a voulu appeler ce podcast les contrariantes, c'est toute la tradition justement des contrariens ou des contrariants. C'est vraiment penser contre soi-même, et c'est effectivement prendre le risque d'être choqué, d'avoir mal, de se remettre en question, d'être face à des pensées, des idées, des paroles qui nous mettent mal à l'aise. Mais il n'y a pas de progrès possible de la pensée sans ce malaise. Si tout est bien safe, si tout est bien gentil, tout est bien bienveillant, etc. On n'avance pas, on reste, c'est ce que je disais au début, on reste entre soi. On est très content, tout le monde est d'accord, personne ne se gêne, mais quand il y a le rappel à la réalité, comme par exemple l'élection de Donald Trump, tout le monde finit dans son lit à pleurer, quoi.
Pas moi. non, pas que je ne suis pas surprise, mais je n'arrivais pas à m'émouvoir parce que je le voyais déjà, et peut-être aussi parce que le Brexit était arrivé quelques mois auparavant.
Oui, tout à fait, ouais.
Je vis à Londres, donc d'une certaine façon, nous, on était déjà entrés là-dedans. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, hein, sur l'idée de contrarier, c'est que la frontière de la contrariété a quand même beaucoup glissé. Il me semble qu'aujourd'hui, on contrarie, on choque, on gêne en disant des choses qui sont simplement de l'ordre de la réflexion, de l'interrogation philosophique. Je vais prendre un exemple qui, disons, nous intéresse toutes les deux et dont tu es tout à fait spécialiste, mais quand on parle des différences entre hommes et femmes, le fait de dire, ce qui est le discours absolument commun, général, de dire qu'il n'y a que des différences sociales, donc tout vient de la socialisation, est considéré par tout le monde, hein, comme une évidence. Mais quand on l'interroge en disant « mais n'y a-t-il pas éventuellement des différences naturelles entre hommes et femmes qui seraient, disons, évidemment des moyennes, et derrière il y a toute une illustration scientifique, hein, qui arrive, une démonstration scientifique à l'appui de cette hypothèse et de cette thèse, eh bien ça, c'est insupportable pour beaucoup de gens, en tout cas dans les médias tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est insupportable à entendre. Et moi, ça, je trouve ça étrange parce que ça me ramène à la terminale quand j'ai commencé la philosophie et où on nous apprenait à prendre une question et la regarder sous toutes ses facettes. Donc, quand on prend une question qui sont « Pourquoi les hommes et les femmes sont-ils différents ?», bien, c'est quasiment normal de se dire « Alors, il pourrait y avoir des facteurs sociaux, il pourrait y avoir des facteurs naturels, il pourrait y avoir ça et ça et ça. » Et ensuite, on regarde, on démontre, on expérimente et on fait une conclusion. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de débats comme celui-là, mais il y en a plein d'autres, sont réglés d'avance. On a le choix entre une ou deux réponses à l'avance, mais faire entrer un autre monde, une autre hypothèse, est totalement impossible. Donc, je suis peut-être complètement naïve. Hein, la vie ne ressemble pas à la classe de philosophie de terminale. Je suis bien d'accord. Mais nous évoluons toutes les deux dans une sphère qui se veut intellectuelle et en fait qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas les problèmes avec sincérité et honnêteté.
Non, mais absolument. Pour donner un exemple récent, donc moi, c'est un de mes défauts, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Donc voilà, il y avait une polémique, c'était un prof, c'était niveau université, ça j'en suis sûre, qui visiblement avait mis un message dans un groupe Facebook, et en fait il demandait des sources philosophiques qui parlaient des différences biologiques entre hommes et femmes, et il faisait des petites blagues, il disait oui, vous vous rendez pas compte, j'ai 200 hystériques féministe face à moi, aidez-moi, voilà. Et donc son message a été photographié, enfin a été screené et partagé sur les réseaux sociaux. C'était la grosse panique. Ah, vous rendez-vous compte, ce gros macho qui demande des sources philosophiques sur les différences hommes-femmes d'un point de vue biologique. Tout le monde sait qu'elle n'existe pas. Et j'étais là, non, c'est qu'elle n'existe pas parce que justement vous vivez dans une bulle et vous pensez qu'elle n'existe pas. Après il y a une bulle. Après, il y a des bulles linguistiques, mais je considère que quand même, quand on est prof à l'université, on parle quand même un peu bien anglais et en tout cas, on se doit d'avoir connaissance de ce qui se publie dans le monde anglo-saxon, et ça, des bouquins et des sources et des articles, etc., sur les bases biologiques des différences hommes-femmes, vous allez en trouver à l'appel. Bref, donc voilà, c'était l'illustration de cet effet. C'est même plus qu'une bulle, c'est vraiment des tupperwares. Les gens, quoi, cette morgue, voilà, le truc qui m'a vraiment déprimé, c'était vraiment l'arrogance de l'ignorance, quoi. C'était quel affreux jojo, ces choses n'existent pas, alors que tout ce qu'elle disait, c'est on ne sait pas qu'elles existent parce que on est complètement hermétique.
Oui, et c'est d'autant plus étonnant que depuis quelques années, on a la mode de ce qu'on appelle le fact-checking, la vérification des faits, qui ont fleuri dans beaucoup de médias. Hein. On retrouve ça chez Le Monde, Libération, au moins. Donc l'idée, c'est de prendre l'affirmation d'une personnalité publique ou même un fait ou plutôt une affirmation qui est très répandue et de regarder si elle est vraie ou pas. Alors bon, il y a souvent des erreurs dans ces entreprises de vérification, mais surtout c'est encore pire parce qu'on sent qu'il y a un dessein idéologique derrière la vérification du fait, mais ce dessein se drape des oripeaux de l'objectivité. Moi, ça me gêne encore plus que la subjectivité assumée. Parce que si on veut vraiment être parfaitement objectif, ça voudrait dire qu'il faudrait regarder déjà les affirmations de tous bords, mais vraiment, mais aussi des choses telles que l'exemple qu'on vient de donner. Or, moi, je n'ai jamais vu aucune vérification factuelle sur la fameuse question des différences entre hommes et femmes. Donc, je trouve ça aussi très arrogant. Alors, ce n'est pas de l'arrogance de l'ignorance, là, c'est l'arrogance de la fausse science. Et c'est très répandu. Et puis, ça va de pair en plus avec une division morale, je trouve, hein, entre individus, qui serait la suivante. D'un côté, vous avez les fact-checkers, donc ceux qui sont du bon côté. Puis de l'autre côté, vous avez tous les ploucs qui croient aux fake news et qui les transmettent, qui les diffusent. Ah, et puis de toute façon, toutes ces fake news, elles ne servent qu'à une chose, c'est à faire élire des populistes. Donc derrière ça, il y a un présupposé que je trouve très gênant. Je me rappelle une fois une conversation avec une amie française qui vivait aux États-Unis et qui me disait, de toute façon, c'est évident, la droite américaine est anti-science et la gauche américaine est du côté de la science. Alors, oui, il y a beaucoup de conspirationnistes qui gravitent dans la droite, autour de la droite américaine. Ça, c'est possible qu'il y en ait plus. Évidemment, le déni du changement climatique se situe, enfin le climato-scepticisme, comme on dit en France, se situe plutôt et même complètement du côté de la droite. Donc bon, peut-être d'un point de vue quantitatif, c'est plus fort à droite, mais je ne pense pas que la gauche ou les progressistes soient plus disposés que d'autres à être du côté de la science ou de la vérité, parce que pour les sujets qui sont importants pour eux, comme par exemple la question du genre, alors là, la science n'est plus du tout présente.
Non, mais effectivement, moi, pour le coup, je dirais que, vu de ma chaise, je pense que quantitativement, le déni scientifique est assez équivalent à droite et à gauche, mais effectivement, ça ne se cristallise pas sur les mêmes sujets. En fait, chaque côté, chaque camp a ses tabous. et gère son anti-science comme ça. T'as parlé du déni du réchauffement climatique. À droite, il y a tous les trucs sur la sexualité. Il y a la sexualité dans le sens, je sais pas, tous les débats autour de l'avortement, etc. C'est des choses. Enfin, comment dire, quelque chose qui est aujourd'hui quand même assez connu, c'est que ce n'est pas en interdisant l'avortement qu'on fait diminuer les avortements. C'est juste quand on interdit l'avortement, on fait augmenter les morts de femmes qui continuent à avorter de manière dégueulasse. Ça fait partie d'un tabou à droite et à gauche, comme tu dis, tout ce qui est base biologique des comportements. C'est aussi très marrant quand on creuse, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça reste du puritanisme, parce que quand quand on explique que oui, on a une aversion innée aux serpents ou aux araignées ou à ce genre de prédateurs ancestraux, ça ne choque à peu près personne à gauche, et tout le monde est, voilà, ça fait des articles et des articles dans Science et Vie, tout le monde s'en fout, tout le monde est content, c'est formidable. Ou je sais pas, sur la nutrition, voilà, les bases biologiques de la nutrition, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'obèses, parce que on est dans des environnements d'abondance et que nos corps ont été façonnés pour tirer profit du minimum de calories. Bref, ça pareil, il y a pas de problème, c'est très intéressant, etc. Mais dès que ça monte au-dessus du cou, en fait, dès que ça arrive, voilà, les comportements, la psychologie, les croyances, etc., là c'est haro sur le baudet. Et même encore plus précisément, il peut y avoir des tolérances et même une appréciation des perspectives évolutionnaires sur les comportements, les pensées, etc., mais tant justement que ça ne touche pas le sexe. Et c'est pour ça que je parlais de puritanisme. Quand ça passe du côté du sexe, de la sexualité, du genre, des différences sexuelles, etc., quand on se rappelle qu'on est une espèce sexuée, qu'on est des mammifères placentaires, ça devient... C'est même plus que ça, comment dire, j'allais dire, ça devient inaudible, mais c'est même plus que inaudible. On ne veut même pas que ça soit dit. On s'arrête même l'étape d'avant de l'inaudible, en fait. Vous n'allez pas en parler.
Bah, c'est ce qu'on appelle un tabou.
C'est ça.
En fait, c'est un tabou, c'est de l'ordre du religieux aussi. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est que en France, on parle énormément du poids social, c'est-à-dire qu'on parle énormément de déterminismes sociaux. On n'est pas du tout un pays qui critique les sciences évolutionnaires au nom de la liberté individuelle. Finalement, la critique qu'on entend, c'est pas chaque individu est totalement libre, il n'a aucune contrainte, donc le poids de la biologie n'a pas d'importance. On est tout à fait d'accord pour dire que le poids de la société est énorme. Le poids des origines familiales, le poids socio-économique est extrêmement pesant. Donc moi, j'ai du mal à comprendre ça, parce que si on est prêt à accepter une forme de déterminisme, d'ailleurs, j'aime pas trop le terme, parce que ce n'est pas du tout ce que disent les sciences évolutionnaires. On ne parle pas de déterminisme, là. D'ailleurs, les gens qui critiquent ne comprennent pas, en fait. On ne parle pas du tout de fatalité. On parle de tendance, de probabilité, en fait. Et là, je ne comprends pas, parce que moi, personnellement, le déterminisme social, je conçois qu'il existe et il est évidemment présent, mais je pense qu'on l'exagère aussi. Et on perd complètement la vision de l'individu, mais surtout, on perd ce qui peut aider les individus, c'est-à-dire la possibilité de savoir qu'on peut toujours ne pas être réduit à son appartenance sociale. Et c'est pareil pour les origines naturelles. C'est pas parce qu'on décrit des comportements d'hommes et de femmes que chaque homme ou chaque femme est déjà correspond à la moyenne, parce qu'il y a énormément d'exceptions, voilà. Enfin, ça, tu pourrais l'expliquer mieux que moi. Mais c'est aussi que une fois qu'on est conscient d'un certain nombre de choses, on est beaucoup plus à même de s'en défaire ou non, d'ailleurs. Je veux dire, c'est aussi la liberté de chacun de se dire, par exemple, je suis une femme et il y a un certain nombre de choses dans ma nature qui font que, voilà, je vais peut-être me comporter d'une certaine façon. Par exemple, quand je viens d'accoucher, c'est sûr que mes hormones font que je vais me comporter d'une certaine façon. Mais on est aussi libre de faire autrement. On est libre de ne pas avoir d'enfant. On est libre et c'est ça qui me désespère, c'est-à-dire cette volonté de ne pas savoir. C'est-à-dire Donc c'est alors tu parlais d'ignorance tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est la satisfaction de rester dans l'ignorance, et ça m'étonne en fait de la part d'intellectuels.
Ah bah ça c'est le je pense que ça sera un sujet récurrent dans notre podcast, c'est pourquoi est-ce que les intellectuels n'aiment pas la liberté de penser, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas la difficulté qu'il y a à avoir des idées qui sont désagréables, qui nous mettent mal à l'aise, etc. Je pense que c'est le moment de passer à la contrariété. Chaque numéro, nous allons parler de ce qui nous a contrarié ces derniers jours.
Je me lance, qui nous a contrarié encore ouais. plus que tout ce que nous
voilà,
venons de dire.
C'est ça.
Alors, ma contrariété du jour concerne le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui vient de publier la semaine dernière son baromètre 2019 de la diversité de la société française, dans lequel il regrette que les personnes représentées dans le paysage audiovisuel soient principalement des hommes blancs appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures et sans handicap. Le CSA enjoint aux chaînes de fournir des efforts significatifs pour améliorer la visibilité de la diversité et déplore qu'une part de la société française reste encore ignorée des médias. Il rappelle par ailleurs qu'il est plus nécessaire que jamais de montrer le pays dans toutes ses diversités pour lutter contre l'ignorance et toute forme de préjugés ou de discrimination. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ces déclarations et ce rapport. Moi, ce qui me gêne tout particulièrement, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger vers des médias à quota, où on va essayer de quantifier toutes les catégories possibles de population. Alors, en plus, il ne s'agit pas de toutes les catégories, puisqu'on se concentre sur des catégories bien particulières qui font aujourd'hui l'objet, finalement, de beaucoup d'attention, qui sont d'ailleurs définies de façon plus ou moins biologique, alors sauf les catégories socio-professionnelles. Donc, c'est le genre, l'origine ethnique, le handicap. Alors voilà, on sait que toutes ces choses sont dans l'air du temps. C'est comme ça qu'on comprend aujourd'hui le mot diversité. Et alors moi, ce qui me gêne, c'est que on est en train de sous-entendre que quand on regarde un média, eh bien, on a envie de se voir soi-même. On a envie de voir le reflet exact de ce qu'on est, le reflet exact de ce qu'est la société. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend quand on regarde la télévision ? Alors oui, bien sûr, quand on regarde les informations, on a envie d'apprendre des faits. Mais d'ailleurs, les faits qu'on apprend aux informations ne concernent pas toujours toute la population, évidemment, il y a forcément un choix. Et quand on regarde des films aussi, on n'a pas forcément envie de se voir soi-même. Je vais vous donner un exemple peut-être un peu trivial, mais si par exemple on est dépressif, je ne sais pas si on a envie de voir des films avec des dépressifs. Au contraire, moi je pense que les médias et notamment la création, c'est quelque chose qui nous aide à sortir de nous-mêmes. Et souvent d'ailleurs, en sortant de nous-mêmes, par l'intermédiaire d'un autre particulier, on peut toucher à l'universel. C'est ça qui est quand même assez fabuleux dans la création. Quand on regarde la littérature française, par exemple, la grande majorité des œuvres ne rentrent pas dans la catégorie représentation de la société. Oui, on aurait très bien pu dire à Proust que la recherche du temps perdu n'était pas assez représentative, qu'il y avait peut-être trop de bourgeois et pas assez d'ouvriers, mais à la fin, on aurait peut-être manqué un chef-d'œuvre. Et puis surtout, un ouvrier est tout à fait capable, il me semble, si ça l'intéresse, de lire la recherche du temps perdu. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait s'intéresser aux œuvres qui nous représentent et, disons, ignorer toutes les autres parce qu'elles ne nous représentent pas. Donc, je m'inquiète vraiment de cette espèce de miroir qu'on est en train de construire et qui ne sert absolument à rien et qui sera surtout néfaste.
Alors, ma contrariété du jour, je vais commencer fort pour ce premier numéro, je vais parler d'un suicide. Donc, le suicide du chef Taku Sekin, qui est un chef nippo-français qui commençait à avoir une carrière très, très prometteuse en France. Son suicide a été annoncé le 28 septembre 2020 par sa compagne Sarah Berger, dans un communiqué qu'elle a fait sur Instagram, où elle dit donc les conditions de la mort de Taku Seki ne sont ni ordinaires ni accidentelles. Taku Seki a mis fin à ses jours emportés par une grave dépression consécutive à sa mise en cause publique sur les réseaux sociaux et sur un site spécialisé, avec une récurrence apparentant un véritable acharnement. Comme on l'aura deviné par rapport au contexte actuel, il était accusé de violence sexuelle, de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. Et notamment, Mediapart était sur le coup depuis quelques semaines, voire quelques mois. Ça, je crois que leur enquête a commencé en août. Et donc, ni une ni deux. Donc voilà, donc ce suicide est annoncé. Et ni une ni deux, genre le lendemain, même pas, quelques heures d'intervalle, donc Mediapart fait un article qui s'appelle « Gastronomie 2. à propos d'une enquête de Mediapart. Donc c'est signé par Lénaïque Bredoux, qui est la cheftaine chez Mediapart des enquêtes sur les questions de violences sexuelles. Donc voilà, elle confirme qu'il y avait une enquête en cours. Voilà, je me suis trompée, c'est pas depuis le mois d'août, c'est depuis le mois de juillet. Donc il y avait une enquête en cours qui portait sur plusieurs accusations de violences sexistes et sexuelles à propos de Taku Sekin. Cette enquête n'était pas terminée, elle était encore en cours à l'annonce du décès du chef. Donc Lénaïque Bredoux précise que l'enquête n'avait pas fait l'objet d'une étape décisive et impérative, celle dite du contradictoire, oui c'est bien, au cours de laquelle la personne mise en cause est amenée à pouvoir se défendre, répondre, confirmer, contredire, démentir. Donc déjà ça m'a fait marrer, parce que sur Mediapart, la dernière affaire avec du contradictoire que j'ai en mémoire, c'est l'affaire Adèle Haenel où en fait l'enquête avait mis 8 mois, donc en fait l'enquête à charge avait mis 8 mois, et pour le contradictoire ils avaient contacté donc Christophe Rougier, à l'accusé, la veille, en lui envoyant je crois une quarantaine de questions, et en se demandant pourquoi est-ce que il n'avait pas répondu, il s'était défilé, le lâche. Le truc très très grotesque, enfin c'est absurde, je sais même pas comment le qualifier. Donc voilà, il précise, oui, c'est un suicide, ah là là, c'est pas rigolo, dis donc. Mais quand même, il y a aucune remise en question. Et le passage le plus merveilleux, enfin, vraiment, c'est à la fin, enfin, comment dire, c'est aux trois quarts du texte. Ils disent, comment dire, que dans le communiqué de la famille de Taku Sekin, ça évoque un grave dérèglement collectif. Et après, donc ça continue, c'est l'article. Mais celui-ci, s'il était avéré, ne doit pas conduire à balayer d'un revers de main les témoignages de nombreux salariés. En plus, c'est l'écriture inclusive qu'on adore, de la restauration, blablabla. Donc en gros, voilà, le type, son cadavre n'est même pas encore tiède que qu'ils font ce texte du genre, ah bah oui, peut-être qu'il est mort. Bah dire, c'est pas marrant. Mais quand même, faut pas balayer d'un revers de main. Il y a des problèmes dans la cuisine. Et ça, comment dire, c'est ce qui est caractéristique de toutes ces histoires, voilà, qu'on a, tous ces articles, de toutes ces enquêtes qu'on a en gros depuis, enfin il y avait ça avant, hein, Mediapart, faut quand même se rappeler que ça a été fondé par Edwige Plenel, qui a été très complètement complice dans le fiasco médiatique qui a eu autour de l'affaire Allègre et Dominique Boudis. Dominique Boudis a eu la chance de pas se suicider, mais il était quand même très profondément déprimé par cette affaire. Bref, c'est caractéristique de toutes ces histoires, c'est que oui, peut-être que individuellement il y a eu des problèmes, comment dire, qu'il y a eu des conséquences dramatiques, en l'occurrence des suicides. En fait, c'est un problème collectif, c'est un problème social. Donc en fait, c'est pas grave si on écrase des gens au passage. La cause est tellement bonne qu'on va jamais se remettre en question. Et ça, c'est un truc qui me c'est même plus que de la contrariété. Ça me met dans une rage assez incommensurable.
Tellement d'accord avec toi, Peggy. Enfin, c'est révoltant. C'est un peu, tu sais, on fait pas d'omelette sans casser
mais
des œufs.
Mais c'est ça voilà. Le truc. C'est...
Donc, la voie du progrès, le progrès, la justice est plus importante. Elle mérite bien quelques suicides.
Mais la blague, pour finir sur cette histoire, donc quand c'est sorti sur les réseaux sociaux, donc il y avait les filles qui était dans cette enquête, donc la fameuse c'est cité dans l'article de Mediapart, Nora Boisouni, qui est une journaliste indépendante, donc qui travaille avec Mediapart sur ce sujet. Donc elle poste sur Twitter genre, ah oui, bah voilà, vous avez su, voilà, l'enquête est terminée. Et en fait, elle se prend plein de messages de soutien du genre du genre ah bah ah oui bah ton enquête va pas voir le jour, t'es pas de bol, dommage, le mec est mort quoi. C'est vraiment c'est absurde, ça c'est il y a pas je trouve pas les mots quoi.
La question c'est moins mais comment le nazisme a-t-il pu arriver, c'est plutôt mais pourquoi le nazisme n'est pas présent en permanence,
bien sûr, mais c'est
l'attitude des gens, la tendance à la délation, le fait de pouvoir se réjouir enfin sans aucune charité, enfin c'est heureusement qu'on vit quand même dans une démocratie libérale hein.
Vous écoutez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté.
Nous concluons maintenant cette première partie pour passer à la seconde, où nous accueillons aujourd'hui Frédéric Taddeï.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Frédéric Taddeï, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre pour cette première édition des Contrariantes. Frédéric Taddeï, vous êtes journaliste, animateur de radio et de télévision. Vous animez sur Europe 1 deux émissions de débat le week-end. À la télévision, vous avez animé ce programme devenu culte, Ce soir ou jamais, de 2006 à 2016, sur France 3 puis France 2, à laquelle Peggy et moi avons eu la chance de participer. Il faut aussi citer Dardar, que vous avez présenté sur France 2 de 2002 à 2018, où vous racontiez les dessous des grandes œuvres d'art. En 2018, vous avez rejoint la chaîne RT France pour présenter Interdit d'interdire, une émission de débat. On vous a reproché de choisir une chaîne financée par le gouvernement russe, ce à quoi vous avez répondu. Dans un paysage télévisuel sinistré, où les intellectuels, les chercheurs, les savants, les contestataires n'ont plus la parole et où les vrais débats ont totalement disparu, c'est la seule chaîne de télévision qui m'ait donné carte blanche pour faire ce que je faisais dans Ce soir ou jamais, des émissions intelligentes, sans parti pris, dans lesquelles on pourra discuter de tout, entre gens qui savent de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs et qui ne sont pas d'accord entre eux. Nous vous invitons pour ce premier numéro, car pour nous, vos émissions sont, et étaient, un des derniers espaces de libre discussion. Vous avez toujours reçu des personnes de toutes obédiences, à tel point qu'on vous a reproché de donner trop largement la parole à des gens peu fréquentables. Nous parlions à l'instant avec Peggy de ce que nous ressentons comme un rétrécissement de l'offre médiatique, en particulier à la télévision et à la radio, un manque d'audace, un conformisme terriblement ennuyeux. Alors, que pensez-vous de ce constat ? Vivons-nous, à votre avis, une époque de puritanisme de la pensée ? Et surtout, avez-vous l'impression d'être une espèce en voie de disparition ?
Pas forcément une espèce en voie de disparition. Il suffit que de nouveaux dirigeants à la tête de chaînes de télévision aient envie de retrouver, comme ça a été le cas au moment de Ce soir ou jamais, hein, au moment où je commence Ce soir ou jamais, il n'y a déjà plus de vrais débats à la télévision. Si je peux les remettre à la mode, c'est parce que il y a Patrice Duhamel et Patrick de Carolis qui sont à la tête de France Télévisions et qui me font confiance. Donc ça pourrait tout à fait repartir de plus belle avec d'autres animateurs plus jeunes et certainement de façon différente. Je ne crois pas que ce soit condamné, mais c'est vrai que l'époque n'est pas réjouissante, on va dire.
Mais est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez quitté France Télévisions ? Est-ce que vous étiez en désaccord avec ce qu'on pourrait appeler une ligne éditoriale ?
Ben, tout simplement, on arrête Ce soir ou jamais. Ça ne me choque pas, l'émission ayant duré 10 ans, je ne suis pas propriétaire de ma case. Le fait qu'on arrête une émission au bout de 10 ans n'a rien de scandaleux en soi. Le fait qu'à la place, on me donne une émission mensuelle après 1h du matin, là, je l'ai mal pris, s'il vous plaît. Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, j'ai claqué la porte et qu'on ne m'a pas retenu.
Mais alors, vous parliez de vrais débats. C'est une expression que vous venez d'utiliser. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai débat ?
Moi, pour moi, un vrai débat, c'est le contraire de ce que l'on voit aujourd'hui sur beaucoup de chaînes, c'est-à-dire des débats avec des chroniqueurs payés par la chaîne, qui jouent des rôles, qui jouent des personnages. Ils finissent par croire à leurs personnages, d'ailleurs. Mais ça, pour moi, ce sont de faux débats, ne serait-ce que parce que, dans la plupart des cas, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ce sont des commentateurs. C'est comme si moi, je débattais de tout. Je donnais mon opinion sur tout. J'ai sûrement une opinion sur tout, comme tout le monde. Je me garde bien de la donner. Les vrais débats, c'est entre gens qui ont, je dirais, pour simplifier, travaillé sur le sujet. Pour moi, un acteur qui fait un film sur, la guerre en Irak, il a travaillé sur le sujet de la guerre en Irak, vous voyez, et son opinion, ou en tout cas ce qu'il pourrait dire dans un débat, est intéressant à ce titre, exactement comme un politologue, un géopolitologue, un économiste, un historien, etc., etc. Voilà, je demande aux gens dans les débats d'avoir au moins travaillé sur le sujet, ça me paraît un minimum, et puis ensuite, de ne pas tous être d'accord entre eux. C'est souvent le problème des débats organisés à la télévision depuis quelque temps, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous d'accord entre eux et qu'ils font semblant de se disputer sur une pointe d'aiguille. Moi, je trouve que les débats doivent mettre en scène de véritables oppositions, aussi bien au niveau de la vision du monde que du sujet du débat lui-même.
Mais on a un peu du mal à comprendre pourquoi ça a disparu, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Finalement, c'est dans l'intérêt d'une chaîne d'avoir des gens intéressants qui viennent parler. C'est dans l'intérêt du journaliste, évidemment dans l'intérêt du public. Alors, pourquoi ça n'existe plus ?
C'est à ceux qui dirigent les programmes des chaînes de télévision qu'il faudrait poser la question. Moi, j'ai ma petite idée parce qu'on me l'a dit au moment où justement j'étais... je commençais à être en bisbille avec France Télévisions, c'est qu'on pense que les gens intelligents ne regardent plus la télévision. Et que donc, il faut faire de la télévision pour les imbéciles. Voilà. Et donc, il ne faut pas être trop ambitieux. Si vous voulez faire des vrais débats, il faut inviter des gens qui ne sont vraiment pas d'accord. Et y compris des gens qui peuvent paraître très loin de ce que l'on appelle aujourd'hui les valeurs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'inflation du terme républicain. Il y a des valeurs républicaines, des tenues républicaines, etc. Chacun veut être plus républicain que son voisin. Et il y a des gens qui, tout à coup, arrivent avec une vision du monde. On se dit, mais attendez, est-ce que c'est bien républicain ? Et je parle pas là simplement des opinions d'Éric Zemmour ou de gens comme ça, mais simplement, tout à coup, l'irruption du contestataire, celui qui voit le monde différemment de ce que l'on nous dit à longueur de journée. Mais celui-là, si vous n'en voulez pas dans vos débats, s'il vous fait peur, si vous pensez que le débat va être inquiétant, c'est-à-dire qu'on aime les débats rassurants pour les téléspectateurs, on aime les clashs au fond. Le clash, c'est bien, il y a un gentil et un méchant qui s'affrontent. Mais c'est une logique de guerre civile pour moi, le clash. Le débat, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout d'accord, mais on peut quand même discuter et vivre ensemble.
Justement, tout à fait, et c'est assez amusant parce qu'on vous a beaucoup reproché, comme le disait Laetitia, donc d'être parti sur Rochette Today. Et il y a un moment qui m'avait beaucoup, que j'avais trouvé, voilà, une sortie qui avait beaucoup de panache, c'était dans l'émission média de Sonia De Villers sur France Inter, justement au moment du lancement de l'interdit d'interdire. Donc elle vous cuisinait sur Rochette Today France et sur Poutine, et vous aviez simplement répondu, je me fous d'être payé par Poutine. Et justement, j'avais trouvé ça très, très intéressant comme sortie, parce que pour moi, ça synthétisait en fait un gros problème de l'espace du débat contemporain. C'est-à-dire qu'on se focalise d'abord sur qui parle, on essaie de savoir pour qui il parle. On a toute une liste, en gros, de procès d'intention à faire avant que quelqu'un ouvre la bouche. Mais en fait, bien plus rarement, on s'intéresse, alors qu'en fait, c'est l'essentiel, sur de quoi on parle. Est-ce que ce n'est pas un des problèmes du débat actuel dans les médias ?
Moi, je crois que c'est un problème, mais qui est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Le « d'où bien tu sûr. Parles », déjà en mai 68, c'était devenu une rengaine, « d'où tu parles ». Et moi, je crois que ça cache en même temps la peur. Pour moi, si vous voulez, tout est explicable aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui par la peur. Il y a même parfois une peur qui devient de la panique. Et on voit bien que, pour résumer par rapport à Russia Today, outre la diabolisation de Vladimir Poutine, sur lequel je ne me prononcerai pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, et moi aussi. Mais il y a une panique de la part des journalistes, des médias traditionnels, d'être désormais concurrencés, alors d'abord par des sources d'informations qui ne sont plus occidentales, on l'a vu avec Al Jazeera, avec Russia Today, qui est installée pas seulement en France, hein, qui est dans le monde entier, avec évidemment Internet, qui est devenu une source d'informations primordiale, notamment pour la jeune génération. Vous avez tout à coup des journalistes qui, jusque dans les années, on va dire, jusque dans les années 90, avant le satellite, puis Internet, avaient le monopole de l'information. Et tout à coup, là, il y a d'autres sources d'informations qu'eux. C'est paniquant, surtout qu'au même moment, les recettes de la publicité ont fondu, les lecteurs se sont carapatés, je parle de la presse écrite, mais même la télévision est de moins en moins regardée. Et elle sait que ça ne remontera jamais. Elle sait que de plus en plus, les gens iront voir ailleurs. Et pour les journalistes, c'est terrible. Ils ont de moins en moins d'argent pour faire un travail qui est difficile. On leur demande, dans la presse écrite, de travailler bien plus qu'avant, parce qu'il faut non seulement remplir le journal, mais en plus le site Internet. Et ils sont moins nombreux qu'avant, parce qu'il y a moins d'argent pour les payer. Ils ont moins de notes de frais pour faire des reportages, etc. etc. C'est fort à la mot. Vous voyez, ils sont assiégés par une armée mexicaine, ils savent qu'ils vont mourir, et au lieu d'être intelligent, de travailler plus, c'est difficile, d'être irréprochable, au fond, ils se targuent d'être assiégés par des gens qui sont sans foi ni loi et que eux seuls incarnent l'objectivité journalistique, les autres c'est de la propagande ou des fake news. Et on va faire une loi sur les fake news et ils vont tous abonder alors que cette loi sur les fake news se retournera contre eux. Et puis un jour on fera une loi contre la propagande des autres, mais comme nous aussi, parfois sans le savoir, on fait de la propagande, ça se retournera aussi contre nous. Je parle de nous, les journalistes français, évidemment, hein, pas nous, les animateurs de Russia Today. Ça, on prendra les premiers, mais ils seront juste après.
Oui, mais cet esprit, cet esprit d'assiéger, je trouve que c'est très, c'est vraiment très transversal. Dans tous ces problèmes voilà, de peur, moi je dirais même comme on perd les gens aujourd'hui ont peur d'avoir peur, c'est tous ces phénomènes de panique, etc. Et dans une autre interview vous parliez qu'en fait les débats en fait aujourd'hui dans les médias se résumaient trop souvent en fait à un aiguisage de couteau. Est-ce que justement un des problèmes justement ne vient pas du fait que les débats ne sont pas des conversations, donc ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas du vivre ensemble, mais c'est du conflit.
Alors ça dépend, c'est-à-dire ça c'est les clashs. Ouais. Sinon les débats ils sont très de bonne compagnie entre chroniqueurs payés par la chaîne avec un animateur qui peut, par ailleurs, c'est assez amusant, déverser ses opinions. L'opinionnite est terriblement aiguë hein, en ce moment. Et puis, par ailleurs, un truc totalement décomplexé vis-à-vis du racisme, de l'islamophobie, du mépris pour les classes populaires, du mépris pour les élites aussi, parce que ça va ensemble. Et vous avez ça de façon très installée, comme ça fait de l'audience. Alors ça fait de l'audience, attention, pas auprès de tout le monde, hein, mais il faut bien vous dire que tout ça fonctionne sur les plus de 60 ans, voire les plus de 65 ans. On fait de l'audience à la télé avec les plus de 65 ans. Et puis quand on est une chaîne d'information continue, au fond 200 000 personnes, c'est une très grosse audience. Bon, vous trouverez toujours 200 000 personnes de plus de 65 ans qui voudront regarder, des types de plus de 65 ans qui eux-mêmes ont envie d'en découdre avec la jeunesse, les immigrés, les ouvriers qui ne travaillent pas, les patrons qui sont trop payés, etc. etc. Donc tout ça est de la caricature. Au fond, c'est là-dedans. Moi, j'ai appelé ça aussi une médiocratie, c'est-à-dire qu'on aime ce qui est moyen, on n'aime plus tellement, on n'aime pas ce qui est trop nul, mais on n'aime pas ce qui est trop brillant. Je ne parle pas de moi, là, hein, je parle des émissions qui font appel à l'intelligence. On n'a plus confiance là-dedans, on a peur que ça dégénère, on a peur qu'il y ait des gens trop intelligents qui professent des opinions inadmissibles. On a peur, au fond, de la complexité, on a peur de ce qui n'est pas rassurant. On veut rassurer les gens, y compris dans leurs opinions les plus ignobles.
Alors là, on a parlé de la profondeur et du contenu des débats. Mais il y a une autre critique qui est aujourd'hui adressée à la télévision, à la radio, aux journaux, c'est l'idéologisation et en particulier une espèce de dichotomie entre les médias privés qui tendraient vers la droite et les médias publics qui tendraient vers la gauche. Alors déjà, je me demandais ce que vous pensiez de ce constat et aussi je me demandais si pour vous le problème, il était vraiment dans l'idéologie ouverte ou cachée des émissions ou des journalistes ou plutôt dans ce que vous avez identifié auparavant, c'est-à-dire le manque de profondeur.
Moi, j'y vois la même chose, l'idéologisation. Au fond, l'idéologie, c'est toujours celle des autres. Quand on parle de l'idéologie, c'est pour la reprocher généralement à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite. Mais enfin, à l'extrême droite, on ne lui fait même pas le cadeau que ce soit une idéologie. C'est une pensée nauséabonde. Tous ceux qui reprochent leur idéologie aux extrémistes ont l'impression qu'eux, évidemment, sont dépourvus d'idéologie. Eux, c'est l'objectivité, eux, ils font de la pédagogie, eux, ils savent, eux, ils ont des opinions normales qu'on peut objectivement afficher, professer dans les médias, puisque ça n'est pas partisan. Ça n'est pas idéologique. Eux, ils sont neutres, ils sont objectifs. Bon, évidemment, tout ça fait rire tout le monde aujourd'hui. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, la diversité des sources d'information a fait voir aux gens qu'on pouvait tenir un autre discours. Le réel, il est difficilement observable, sauf par le biais du discours. C'est toujours un discours sur le réel, que ce soit les journalistes, les historiens, les écrivains, enfin tous ceux qui s'expriment, c'est un discours sur le réel. Mais tous ces discours, disons qu'il fut un temps avant la dérégulation et l'ouverture des médias à la concurrence, bah, tous ces discours se ressemblaient. Et donc on avait l'impression que c'était objectif, puisque c'est ce qu'on entendait sur les principales stations de radio et sur les trois ou quatre grandes chaînes de télévision dont nous disposions à l'époque. On savait qu'il y avait des communistes, ils lisaient l'Humanité, on savait qu'il y avait des gens de droite, ils lisaient le Figaro, les gens de gauche, ils lisaient le Matin de Paris ou Libération. Mais voilà, le reste, c'était objectif. Aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien. Il y a un discours, peu importe les qualificatifs qu'on emploiera d'ailleurs, parce que c'est une manière de les juger, et je ne veux pas me rentrer là-dedans, mais on sait qu'il y a un discours qui est plus libéral, il y a un discours qui est plus souverainiste, etc., etc., et que sur le même problème, on peut avoir des discours, des oppositions tout à fait marquées, tranchées. Les gens ne sont plus dupes.
Mais justement, quand vous décrivez le format d'un débat idéal, avec finalement toutes les opinions et représentées, notamment celles des gens qui ont vraiment travaillé sur du sujet, n'y a-t-il pas quand même un risque qui est de juxtaposer des gens qui ont des opinions quand même pas très bien formées, même s'ils prétendent avoir travaillé sur le sujet, et des gens qui, eux, sont peut-être... mieux armés, ont peut-être mieux travaillé, ont plus d'arguments à l'appui de leur thèse. Je dis ça parce que souvent, on constate quand même qu'on met sur le même plan des gens qui n'ont pas le même niveau, non pas de légitimité, mais de connaissance. Un peu comme si on donnait le même temps de parole à quelqu'un qui nous dit que la Terre est plate, et puis après à quelqu'un qui nous dit que la Terre est ronde. Donc, est-ce que ce modèle-là n'a pas des limites ?
Non, parce que j'ai jamais fait un débat... pour savoir si la Terre était plate ou pas. Tous les débats ne sont pas bons à organiser, si vous voulez. Alors, je crois qu'évidemment, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour emporter le morceau, on va dire. Il y a des gens plus éloquents, il y a des gens qui vont vous asséner des chiffres, des arguments, on s'apercevra peut-être après qu'ils sont faux, etc., etc. Ce sont les limites, les inconvénients du débat en direct. À un moment, j'avais rêvé de faire le débat idéal, j'avais créé un site de débat qui s'appelait Newsring, sur lequel on devait poster, enfin publier des arguments. Pour la première fois, on pouvait faire, grâce à Internet, un débat sans limitation de temps et sans limitation de participants. Donc, le débat idéal. Parce que sinon, un débat, il est toujours limité et dans le temps et au nombre de participants. Mais justement, on s'est aperçu très vite que l'argumentation est difficile. Les gens ont des opinions, mais il est très difficile d'argumenter. Et c'est certainement, effectivement, une limite dans le sens où il y a des gens qui argumentent mieux que les autres et qui pourraient éventuellement gagner un débat pour des motifs fallacieux. Mais enfin, moi, quand j'organise des émissions avec des débats, si vous voulez, à la fin, on ne décrète pas qui est le vainqueur. Je ne fais pas voter les téléspectateurs et je ne crois pas à la majorité qui se dégagerait d'un panel soi-disant représentatif pour nous dire qui l'a emporté. Simplement, un débat, ça vous permet de mettre vos convictions à l'épreuve. C'est-à-dire que parfois, vous allez en sortir comme vous y étiez entré, puis d'autres fois, ça vous fait réfléchir, vous allez peut-être changer d'avis sur certains points. Mais qui va vous faire changer d'avis dans ce débat? Ben, ça peut être le type qui a vachement argumenté, et puis l'autre, ou bien l'autre qui a bégayé, ou bien celui qui a fait preuve d'une émotion particulière. Allez savoir pourquoi est-ce qu'on emporte notre conviction. On sait bien que à 90%, nos opinions politiques dont on est si fier sont constituées de souvenirs d'enfance, d'atavisme familial, de cultures qui se sont forgées dans la jeunesse, au moment où on faisait ses études, l'influence du milieu, etc., etc. Tout ça est bourré d'émotions et pas forcément de logique ou de connaissance.
Finalement, on en revient quand même à la rhétorique et à ce que disait Platon, où il dénonçait les sophistes par opposition à ceux qui disaient le vrai. Donc, on n'est pas sorti de là. On a encore des sophistes aujourd'hui qui, comme vous le dites, l'emportent à la fin. Parce qu'ils savent un peu mieux argumenter que les autres ou simplement ils sont plus à l'aise à l'écran. D'une certaine façon, pour vous, ça ne changera jamais, ça?
Non, il y aura toujours des gens plus éloquents que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'emporter. Pas forcément. Très souvent, on peut faire appel à des. Au lieu de faire appel à l'intelligence des gens, on peut faire appel à leurs plus bas instincts et gagner. Vous voyez, mais encore une fois, on ne gagne pas auprès de tout le monde. Les gens qui regardent la télévision, ce n'est pas une foule, à la différence de ce qu'on croit. Elle n'est pas contaminée par la façon dont les autres, dans la même salle ou dans le même stade, réagissent. Les gens qui regardent la télévision et qui regardent un débat à la télévision, et si pour peu que ce débat soit intelligent, vont être tous touchés, influencés ou pas, pour des raisons totalement différentes les uns des autres. Et d'ailleurs, c'était très amusant quand, au début de Twitter, quand Twitter était encore peuplé de gens, uniquement peuplé de gens intéressants, pleins d'humour, etc. Quand, on va dire avant que Twitter fasse ses preuves au moment du procès de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis. Et là, tout à coup, les gens ont découvert Twitter et Twitter a été envahi de tous ceux qui peuplent Twitter aujourd'hui. Mais avant cela, je me souviens quand je sortais de Ce soir ou jamais, je regardais ce que les gens sur Twitter avaient dit de l'émission, parce qu'ils avaient plein d'humour, c'était très sympa à lire. Et puis, c'était pas encore 3000 tweets, vous voyez, il y en avait moins que ça, on pouvait les lire. Et exactement sur les mêmes intervenants, au même moment, les gens disaient des choses radicalement différentes. Radicalement différentes. Donc, je vous dis, je suis persuadé que le fait que quelqu'un soit plus éloquent que l'autre, ou par exemple, un intellectuel par rapport à un artiste, C'est pas forcément l'intellectuel qui gagne. Je me souviens d'un débat formidable dans Ce soir ou jamais entre Gérard Depardieu qui venait, c'était au moment de la sortie de Mammouth, qui était face à l'économiste Daniel Cohen et à la sociologue du travail Dominique Méda. Et Daniel Cohen et Dominique Méda, que j'aime beaucoup, hein, pouvaient sembler très convaincants comme ça. Par leur savoir, leur éloquence, ils étaient très informés, etc. Mais face à eux, il y avait Gérard Depardieu qui a à la fois son intelligence prodigieuse, son talent d'acteur et sa carrière phénoménale, étaient tous les personnages qu'il avait incarnés. C'est-à-dire que face à Daniel Cohen et à Dominique Méda, il était à la fois Danton et l'ouvrier de Mammouth, si vous voulez. Et je pense que on pouvait lui opposer un discours très rationnel et très éloquent. Je crois qu'il emportait le morceau. Vous voyez ? D'ailleurs, les deux, Daniel et Dominique, en sont sortis assez traumatisés. Non pas parce qu'ils avaient l'impression que Gérard Depardieu avait gagné, mais parce que ils avaient en face d'eux Gérard Depardieu. C'est pas rien. C'est comme d'avoir eu Jean Gabin en face de vous et qui est pas d'accord avec vous. Vous voyez, c'est très impressionnant. Et peut-être que donc ils étaient moins convaincants, peut-être à cause de cela. Mais je suis sûr que parmi les gens qui regardaient cette émission, il y en a qui étaient tout à fait convaincus par les arguments de Cohen et de Méda, et pas du tout par ce jeu de Gérard Depardieu et vice-versa.
Mais je pense qu'on touche là, en fait, un autre problème des débats dans les médias. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est souvent, en fait, c'est souvent pollué par le fait que c'est présenté comme des choix binaires, en fait, des fausses dichotomies. Et ce que vous disiez justement là sur l'épisode avec Depardieu, c'est je pense en fait que un des problèmes des médias, en fait des débats dans les médias, c'est que justement trop de questions sont présentées comme polarisantes. Enfin voilà, le truc débile, oui, vous êtes pour, vous êtes contre, dans quelle tribu vous êtes, à quel clan vous appartenez, alors qu'en fait voilà, les choses sont souvent bien plus complexes et nuancées, et justement les débats les plus intéressants sont souvent quand on va dans cette nuance là quoi.
Mais c'est justement ce qui a présidé à la plupart des choix que j'ai pu faire dans Ce soir ou jamais. On pourrait dire que d'un point de vue strictement télévisuel, l'idéal d'un débat, c'est le débat à deux, voyez, voire le débat à quatre. Sauf que le débat à deux, il est forcément réducteur. Le débat à quatre, c'est un peu mieux, mais ça n'est pas suffisant pour véritablement mettre en scène, faire apparaître tout ce qui peut jouer dans un débat sur un problème précis. Je veux dire par là que moi, ce que je voulais absolument, c'est qu'il y ait à la fois les oppositions, on va dire, binaires, telles que les gens les ont connues jusque-là, et puis on ajoute tout à coup un peu de complexité, on met des contestataires, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui remettent tellement le problème, ils vont le retourner de telle manière que tout à coup, vous ne le reconnaîtrez plus. Vous voyez, ceux-là, on les fuit absolument. Ils sont trop inquiétants. C'est simple, un débat, c'est gauche-droite. Vous voyez, gauche-droite, c'est très... tout le monde s'y reconnaît. On est de gauche, on est de droite, on reconnaît son champion. Et puis voilà, c'est simple. Dès l'instant où vous commencez à faire rentrer là-dedans des gens qui sont... Alors on va dire, rajoutons l'extrême gauche et l'extrême droite, déjà ça complique, et puis rajoutons ceux qui sont ni de droite ni de gauche, mais qui pensent que le problème, il n'est pas là, il est ailleurs. Alors là, oh putain, là, et puis alors là, vous, non seulement vous inquiétez, on va dire, vous ne rassurez pas vos téléspectateurs, mais vous inquiétez les on va dire, l'establishment, les patrons de chaîne, les gens comme ça, et puis les autres journalistes surtout. C'est les autres journalistes qui n'aiment pas ça, au fond. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec, à part avec la dernière direction de France Télévisions, mais à ce moment-là, en tout cas, mais je n'ai jamais eu de problème avec les gens que j'invitais, ni avec les politiques, jamais personne ne m'a fait le moindre reproche, et tout le monde m'a toujours dit, et me dit encore aujourd'hui à quel point ils aiment mes émissions. J'ai toujours eu des problèmes avec les journalistes. C'est toujours les journalistes, alors à la fois on peut dire c'est parce qu'ils voulaient ma place, mais ce serait trop simple, c'est que au fond, ma façon de faire remettait trop choses en cause dans leur façon de faire leur métier. Le fait que je laisse les gens terminer leurs phrases, par exemple, ça les... c'était un truc très... Je me souviens, j'étais invité dans d'autres émissions et on me disait, alors vous laissez les gens terminer leurs phrases. Alors je commençais ma réponse et ils me coupaient. Parce que pour eux, ça ne se faisait pas, quoi. Et je me souviens, la première fois on m'a attaqué, c'était parce que j'avais laissé Mathieu Kassovitz terminer sa phrase quand il avait dit qu'il ne croyait pas à la version officielle du 11 septembre. Et alors, qu'est-ce qu'on n'a pas pu me dire ? Voyez ce que ça donne quand on laisse les gens terminer leur phrase, quand on ne les coupe pas, c'est une honte, vous auriez dû le couper, etc. Et je dis, mais enfin, en face de Mathieu Kassovitz, il y avait trois personnes, il y avait Marine Karmitz, il y avait Ismaël Kadaré, il y avait N6Sous, ils ont porté la contradiction. Et là, je me suis rendu compte que les journalistes qui me faisaient des approches n'avaient pas vu l'émission, ils en avaient juste entendu un extrait à la radio et ils ne savaient pas qu'il y avait du monde en face. Ils croyaient que j'avais interviewé Mathieu Kassovitz. mais bon, vous voyez, pour eux, c'est un problème de donner la parole à trop de gens. Parce qu'ils n'ont pas la place et pas le temps de le faire. Donc, quand je le fais moi, ils ont l'impression que c'est une manière que j'aurais de critiquer leur travail.
Mais alors, est-ce que tout cela vous donne l'impression qu'il y a une forme de censure qui se développe, voire d'autocensure aujourd'hui ? En tout cas, c'est un constat qui est fait par certains. L'époque serait mauvaise pour la liberté d'expression. Donc, un constat que vous devez avoir entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que dans votre carrière journalistique, vous avez vu une évolution ?
La liberté d'expression, il faut arrêter... Tout le monde défend la liberté d'expression, mais enfin, j'ai rarement entendu les gens défendre la liberté d'expression des autres. La liberté d'expression en France, elle est limitée. On est certainement un des pays qui la limite le plus. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'elle est limitée de façon assez saine. Bon, je suis plutôt d'accord avec la loi, et en tout cas, c'est toujours cette loi-là que j'ai appliquée dans mes émissions. Il y a des opinions en France qui sont des délits. Ça peut être choquant sur le principe, ça ne me choque pas dans la pratique, j'ai pas du tout envie de vivre dans un pays où on peut se traiter de sale juif impunément ou de sale arabe. Je trouve que c'est un progrès que de l'avoir interdit. Bon. Maintenant que ça, qu'il y ait des abus ensuite, c'est un autre problème. Mais donc cette sacralisation de la liberté d'expression, elle a valu pendant 4 jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, mais ça va pas au-delà. Les gens limitent la liberté d'expression, celle des autres et la leur, évidemment, avec beaucoup d'enthousiasme. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas ce que les autres disent et sinon, ils n'écoutent pas. Donc, le problème de beaucoup de journalistes à la télévision, c'est qu'ils lisent leurs fiches, ils n'écoutent pas ce que les gens disent. Donc évidemment, quelqu'un qui pourrait dire des choses horribles, ça leur fait peur, parce qu'ils vont soit pas entendre, soit pas comprendre. Vous voyez, quand je ne sais plus quel dirigeant d'une maison de parfum avait dit, je ne sais pas si les nègres ont jamais travaillé dans une émission du service public, c'est seulement le lendemain qu'on s'est aperçu que ce n'était pas bien d'avoir dit ça. Parce que l'animatrice, en l'occurrence, elle lisait ses fiches, elle n'a même pas entendu. Vous voyez, et ça arrivait tout le temps. Moi, je me souviens dans Ce soir ou jamais, et encore aujourd'hui dans Interdit d'interdire, les gens qui parlent sur mon plateau, non seulement je les écoute, mais je les regarde dans les yeux, comme ça ils savent que je les écoute. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu aucun problème sur mon plateau, et à chaque fois que des gens ont dit des choses qui pouvaient être mal interprétées, non pas qu'ils tombaient sous le coup de la loi, parce que ça n'est jamais arrivé, mais qu'ils pouvaient être mal interprétés, je leur ai demandé de clarifier ce qu'ils venaient de dire, pour pas que ce soit mal interprété pour de mauvaises raisons. Et puis, une fois qu'ils avaient clarifié, ben, on savait si on pouvait en être choqué, indigné ou pas. Mais en tout cas, ça ne tombait jamais sous le coup de la loi, et puis de toute façon, il y avait des gens en face pour leur dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais... Le problème de la liberté d'expression, si vous voulez, il est d'autant plus grand dans une médiocratie qui n'aime que ce qui est moyen. Parce que tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui vous oblige à réfléchir, tout ce qui peut provoquer en vous une réaction est banni. Vous voyez, c'est comme si vous allez demander au service juridique d'une chaîne « Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Le service juridique va toujours vous dire non. Il se borde, il se couvre. On ne sait jamais, le CSA pourrait mal réagir à tout et à n'importe quoi. Donc, si vous écoutez le service juridique, vous ne ferez jamais rien. Et la plupart des journalistes fonctionnent un peu de cette manière. Vous voyez, s'ils ne laissent parler que les gens qu'on invite ailleurs, on ne pourra pas leur reprocher. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, sur tous les sujets, on interviewe toujours les mêmes personnes, on traite à peu près toujours des mêmes sujets, toujours sous le même angle, en défendant à peu près toujours le même camp. Ce mimétisme, il est lié, alors évidemment, aux conditions économiques dans lesquelles aujourd'hui fait ce métier, qui est un métier de plus en plus paupérisé, comme je vous le disais, mais aussi du fait que le métier s'est paupérisé, évidemment, les gens que cela attire sont moins brillants qu'avant, ils ont moins de moyens, donc ils ont un peu peur de tout, et donc ils ont tendance à faire comme le voisin pour pas qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit.
Donc justement, est-ce que là, c'est pas une évolution que vous pouvez sentir au niveau de l'ampleur de votre carrière? Parce que justement, depuis vos débuts actuels, ensuite à Canal+, ou alors un peu plus tard dans une émission qui a été aussi culte que Paris Dernière, il y avait justement cet espace de la surprise, de l'irruption de l'anticonformisme. Et est-ce qu'on n'a pas perdu ça aujourd'hui dans les médias, quoi?
Bien sûr qu'on le perd, mais je ne crois pas que tout cela ait été institutionnalisé auparavant. Vous voyez, il y avait Jacques Chancel et Bernard Pivot, dont je me suis toujours réclamé, non pas que je les imite, mais c'est certainement les gens dans l'histoire de la télévision parmi ceux dont je me sens le plus proche. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de producteur en face d'eux qui leur disait quoi faire, parce qu'ils étaient les patrons de leur émission, parce qu'ils n'avaient pas de chroniqueur, parce qu'ils laissaient parler les gens, et parce que, exactement comme moi, d'ailleurs ils ont toujours été les premiers à me défendre dès qu'on m'attaquait, ils ont toujours invité les gens que les autres n'invitaient pas. Toujours, systématiquement. Et par curiosité, par provocation, et puis parce que ils me disent, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les gens qui sont différents qui nous obligent à réfléchir. Moi, j'ai même été plus loin sous l'influence de Jean-François Bizeau, patron d'Actuel, qui me disait toujours, ce sont les contestataires qui changent le monde. Tous les contestataires n'ont pas changé le monde, mais tous ceux qui ont changé le monde étaient des contestataires. On ne va pas attendre de l'establishment qu'il change le monde. Ça n'est pas possible. De même que ce ne sont pas les fabricants de diligence qui vont créer l'industrie automobile. Vous voyez ? Donc, j'ai toujours invité les contestataires, moi, pour cette raison, mais j'aurais pu dire, comme Pivot ou comme Chancel, que la curiosité, l'absence de préjugés, le fait d'être un libre penseur, au fond, pouvait m'amener à aller interviewer des gens que les autres n'auraient jamais interviewés. Mais là, je pense à des gens comme Rick Hobsbawm, qui est un grand historien marxiste, Alain Badiou, je sais pas, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines, dont je ne partage absolument pas les opinions, mais dont la pensée m'intéresse. Elle m'intéresse ne serait-ce que parce qu'elle est totalement différente de la mienne. Vous voyez ?
Eh bien, j'espère que nous saurons faire de même avec les contrariantes. Frédéric Taddeï, merci beaucoup d'avoir rejoint les contrariantes aujourd'hui. Et rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point. À retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts.